Je crois que c'est Dieu qui m'a dirigé dans ce passage-là ce matin, alors je vous demande d'être attentif. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qu'on dit à une église dans un contexte comme celui-là? » Et je crois que c'est le Seigneur qui a dirigé là. Alors soyez attentifs, je crois que Dieu a des choses à vous dire, il m'a dit des choses à travers ce passage, 2 Timothée 1. C'est un contexte où un berger, l'apôtre Paul, écrit à un autre berger, Timothée. Et c'est un contexte de séparation. Dans la deuxième lettre de Timothée, Paul est en prison. Paul a pas mal la conviction que la fin de sa course achève. Le moment d'aller rejoindre le Seigneur approche très rapidement. Et pour l'instant, il est séparé d'un de ses amis les plus chers, un fils spirituel. Et il est au loin et il y a vraiment un déchirement. C'est la lettre la plus personnelle de Paul, d'accord? Il y a de la foi, de la théologie comme on connaît Paul, mais de la nostalgie à travers cette lettre-là. Il y a un courant de tristesse qui traverse toute la lettre, qui est là. La foi est là, mais il y a des choses qui se vivent humainement qui ne sont pas faciles à vivre. J'ai intitulé la prédication, ou la méditation plutôt, « Encouragement au Joseph ». Encouragement au Étier et encouragement à toute l'Église de l'Espoir. Et on va écouter ensemble ce que le Seigneur peut avoir à nous dire, parce que je pense que toute l'Église de l'Espoir a besoin d'être encouragée ce matin en plongeant les regards dans la parole de Dieu. Les rondeaux, les marquis, les fauchés, tout le monde a besoin d'être encouragé en revenant vers la parole de Dieu ce matin. Je vous lis le passage, les 18 premiers versets, d'accord? Essayez d'entendre les sentiments de Paul à travers la lettre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour, de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis l'évidence de la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison. Donnez-y fort, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Paul, dans le contexte de cette lettre, est séparé à cause de l'Évangile. Et c'est ça qui est important de retenir ici ce matin. Paul est séparé à cause de l'évangile de Timothée. Et lorsqu'on lit la lettre, on sent qu'il y a une lourdeur dans cette séparation. Si vous continuez à lire toute la lettre au complet, vous verriez cela. Paul souffre de la séparation d'un ami fidèle. Il est en prison. Et c'est touchant dans cette lettre parce qu'avec Paul, on a probablement l'homme le plus orienté sur la mission à travers... À part Jésus, je pense que c'est l'homme qui était le plus orienté sur la mission. Il comprenait parfaitement que nous vivons sur la terre comme des pèlerins avec un baluchon sur le dos. Ça, c'était clair dans l'esprit de Paul. Paul avait été saisi par Christ et il vivait chaque jour sur terre comme dans l'attente d'aller dans la présence du Seigneur. Et pourtant, cet homme-là qui a une vision tellement claire, qui connaît l'œuvre que Timothée est en train de faire dans ses églises, on sent une lourdeur sur son cœur. On sent qu'il y a quelque chose qui est lourd, il y a une séparation qui est là. On sent le prix à payer des souffrances pour l'Évangile. Alors, Paul m'édifie par sa vision claire pour la mission, mais Paul me rassure par ses tripes qu'on voit ici dans la lettre, par ses sentiments, parce qu'il vit le prix qu'il y a à payer pour l'Évangile. Et c'est ça qui me touche dans la lettre ici. En fait, Paul dit qu'il se rappelle des larmes de Timothée. Si je comprends bien, Paul est en train de parler des larmes de séparation de Timothée. Et Paul se rappelle ça. Et ce matin, Normand et Lise nous partagent leur projet, le projet que Dieu a placé sur leur cœur. Et il y a un prix à payer qui vient avec ce projet-là. Il y a un prix à payer pour toute l'Assemblée de Jésus-Christ. Il y a un prix à payer pour eux. Tout à l'heure, à la blague, je disais qu'ils quittent, puis ils vont recommencer, puis Norm n'a plus 30 ans, ni 40. Mais c'est beaucoup. C'est tout un sacrifice. Et ce frère et cette sœur sont des modèles incroyables pour nous, par ce courage et cet attachement à Jésus-Christ. Et l'année dernière, on a vu Jean-Philippe et Catherine partir pour l'église d'Alma. Jean-Philippe va venir prêcher au début du mois de juillet ici. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va les retrouver? Paul parle de la joie qu'il attend de revoir Timothée. Il espère le voir avant que le Seigneur vienne le chercher. Il dit, « Juste te voir va me remplir de joie. » C'est ça qu'on va vivre lorsqu'on va voir Jean-Philippe et Catherine venir ici à l'avant. Jean-Philippe va venir prêcher la parole puis va nous partager tout ce que Dieu est en train de faire à Alma. Mais il y a un prix, il y a une séparation qui est en train de se vivre. La jeunesse l'a vécu encore plus. Le conseil aussi, ceux qui travaillaient étroitement avec eux. Le petit groupe de Jean-Philippe et Catherine, des gens tellement attachants. Hugo et Lynn sont partis avant pour Rivière-du-Loup. Et savez-vous quoi? Ma vision était très, très claire, hein? Une des convictions que j'ai, vous êtes mal pris de ce côté-là, une des convictions que j'ai, c'est que Dieu m'a donné des dons pour la formation des ouvriers. Je n'ai aucune prétention d'avoir formé Normand ou quoi que ce soit, mais ce que ça implique, c'est que je suis convaincu que Dieu m'appelle à former des ouvriers qui vont aller servir ailleurs. Vous êtes mal pris. Et c'est ça que Dieu confirme à travers les dernières années. Pourtant, malgré le fait que j'ai une vision très claire des dons que Dieu m'a donnés à cet égard-là, quand mon frère Hugo m'a annoncé qu'il partait, j'ai eu le cœur tellement gros, tellement. Puis je pense que je l'ai déjà mentionné à l'Assemblée, mais ça m'a pris au moins un an avant de m'en remettre. Au moins un an. Je me souviens faire la route pour aller à Rivière-du-Loup. Je n'étais jamais allé sur la... quand j'étais bébé, là, mais pas adulte. Je n'étais jamais allé dans cette région-là. Puis je m'en allais vers Rivière-du-Loup, là, puis c'était tellement laid comme région. Moi, je suis un gars rationnel, hein? Mais je pense que là, je ne l'étais pas tellement. J'avançais et me disais, mais qu'est-ce qu'il fait dans un trou comme ça? Ça se peut pas. Je vous le dis, là. C'était plus j'avançais sur la route, plus j'étais déprimé. Puis là, ça faisait déjà un bout qu'Hugo était parti là-bas quelques mois. C'était la première fois qu'on allait les visiter. Et donc, je pensais que je m'étais fait à l'idée, mais je réalisais que c'était là, les émotions n'étaient pas encore rendues. Puis on a été bénis de voir l'église là-bas, tout ça, puis on a vu combien Dieu bénissait. Mais voyez-vous, même si la vision était claire, le cœur était lourd de cette séparation. Paul vivait ça. C'est ce que plusieurs d'entre vous qui apprenez la nouvelle ce matin, vous allez vivre aussi. Parce qu'on trouve dans l'Église de Jésus-Christ des liens qu'on trouve même rarement dans nos propres familles. Je suis très proche d'Hugo parce qu'Hugo est en Jésus-Christ, honnêtement. Je n'ai pas cette proximité avec tous les membres de ma famille. Malheureusement, j'aimerais ça l'avoir. Mais on parle un langage différent. On a des rêves, des aspirations et des passions tellement différentes. Dieu est au centre de ma vie, puis à cause de ça, je suis fou. Alors, on trouve dans l'Église d'autres fous comme nous. Puis on tisse des liens ensemble. Puis on tisse des liens qui n'ont rien à voir avec les affinités. Parce que notre affinité, c'est Christ. Il y a un prix à payer quand il y a des détachements, quand il y a des séparations, quand un membre de la famille vient nous partager les beaux projets que Dieu a placés sur son cœur. Un peu comme un enfant qui vient nous dire, puis là j'imagine Katia, lorsque je n'avais pas pensé cette semaine, mais quand vous a appris, hein, fermons, tu sais, c'est comme... Tu veux te réjouir, mais en même temps, tu as comme une espèce de sentiment de trahison qui s'installe. Tu les aimes, tu veux le meilleur pour eux, mais... qu'est-ce que c'est ça? Non? En tout cas... Un colérique comme moi, c'est ça que ça donne. Paul veut encourager Timothée. Paul veut encourager Timothée. Il y a une séparation, puis j'ai l'impression qu'il voulait s'encourager lui-même. Regardez les versets 1 et 2. Souvent, on passe par-dessus très, très vite, par-dessus les introductions de Paul. Hein? On dirait qu'elles se ressemblent toutes. Cette introduction-là est absolument merveilleuse. Regardez ce que Paul dit. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie. » qui est en Jésus-Christ. Quelle belle manière de dire l'Évangile, non? Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Paul est en prison, dans cet endroit de mort. Mais il veut rappeler à Timothée que tout ce qu'ils sont en train de vivre et traverser, c'est parce que Dieu leur a confié la promesse de la vie éternelle. Et tout ce qu'ils souffrent, tout ce qu'ils endurent, c'est un des thèmes de cette lettre. Souffre avec moi, comme un bon soldat. Tout ce qu'on endure, c'est à cause de la promesse de la vie qui nous a été confiée. Parce que nous devons partager cette promesse de la vie. Et moi, j'ai l'impression, consciemment ou non, que Paul veut s'encourager lui-même en disant cela. Il veut se rappeler à lui-même pourquoi ils sont en train de souffrir cette séparation à ce moment-là. Et puis Paul ensuite prend soin de Timothée. Il lui dit, « Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu. » Voyez-vous, il y a un moment crucial qui s'en vient dans l'histoire de Paul et de Timothée, dans leur histoire personnelle à eux. Dans la lettre, Paul exprime qu'il pense que sa fin approche. Et donc, ça veut dire que Timothée va entrer dans une nouvelle phase dans son ministère et dans sa vie chrétienne. Son père spirituel va bientôt aller rejoindre le Seigneur et lui va devoir continuer la course. Maintenant, normalement, ça ne va pas rejoindre le Seigneur tout de suite. Mais il y a définitivement un parallèle à voir avec ce détachement-là. Et qu'est-ce que Paul a comme bonne parole à dire à Timothée? Il dit que la grâce de Dieu, parce que nous avançons seulement par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, je vous assure que vous auriez tous abandonné la foi, moi le premier. Nous sommes non seulement sauvés par la grâce, mais nous avançons par la grâce de Dieu. Et c'est la bénédiction que moi je veux prononcer sur les Joseph ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous dans votre ministère. La miséricorde. Une des choses que tu réalises quand tu sers le Seigneur dans le ministère de la parole, c'est que Dieu se sert de grands pécheurs. Et tu réalises très, très tôt que si on continue à marcher dans le Seigneur, si on continue à avancer, hein, Normand, on est des pécheurs. On est confondus. Combien de fois un ouvrier va aller pleurer et va dire, « Seigneur, comment tu fais pour te servir de moi? Ça n'a pas de bon sens que tu te serves encore de moi. » Et c'est la bénédiction que je veux prononcer sur Normand et Lise. Que la miséricorde de Dieu vous accompagne dans ce ministère-là, si c'est ce que le Seigneur veut pour vous. Et sa paix. On a tellement besoin de la paix de Dieu. À travers toute l'insécurité, toutes les questions, toutes les décisions difficiles, toutes les inconnues. C'est la bénédiction que je veux que Normand prononce sur moi, sur notre famille, sur l'Église de l'espoir ici. Parce que Dieu nous confie une mission. Il en a besoin de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu pour qu'il continue dans sa patience et sa bonté à se servir de nous malgré tous nos échecs, tous nos manquements. Et on a besoin de la paix de Dieu. Et s'il y a une chose dont on a besoin ce matin, c'est de la paix de Dieu. Pas l'appel de Dieu, merci Camille, la paix de Dieu. C'est une des choses que Paul fait à travers toute la lettre à Timothée ici, puis le début, les versets que je vous ai mentionnés. Paul veut rappeler à Timothée que Dieu est là. Regardez le verset 12. Paul se donne lui en exemple, mais tout de suite après, il va parler de Timothée. Il dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Tout de suite après, il va lui dire, « Garde le dépôt par l'Esprit. » Paul veut simplement rappeler à Timothée que Dieu est là, que Dieu veille, que Dieu prend soin, qu'il s'occupe de lui, qu'il s'occupe de l'Église. Paul veut encourager Timothée en lui rappelant qu'il est là, en lui rappelant qu'on est sauvé par grâce et qu'on avance par la grâce, simplement. Mais Paul veut encourager Timothée d'une autre manière aussi. Il l'encourage en lui rappelant, comme chrétien, quelle est notre vocation, quel est notre appel, en lui rappelant ce que nous sommes appelés à faire ici sur terre. En nous rappelant qu'il y a des sacrifices à faire pour l'avancement du royaume. Regardez avec moi le verset 6. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi. » pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. On a une vocation. On a un appel qui nous a été donné en Christ. En Jésus-Christ, nous avons été appelés à vivre autrement. À vivre autrement que le reste des Nord-Américains, à vivre autrement que le reste des Québécois, autrement que le reste des Longueuillois, parce que Jésus-Christ nous a appelés et nous a fait sortir du monde pour aller conquérir le monde avec l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on fait des choix difficiles comme ceux-là. C'est ça qui fait que des Joseph vont décider de partir en neuf, encore une fois, aller abandonner des liens qui sont tellement précieux, tisser de nouvelles relations, découvrir une nouvelle équipe, quitter, s'éloigner encore un peu plus de la famille. C'est ce qui fait que les Étiers vont partir à Rivière-du-Loup, Hugo et Lynn. C'est ce qui fait que Alexandre et Cynthia vont être prêts à considérer de partir au Kentucky pour aller compléter des études pour le ministère pastoral. C'est ce qui fait que les Bascounan sont partis au Chili. C'est parce que Dieu nous a appelés. Et voyez-vous, on a une sainte vocation, on a un appel saint. Et cela implique un peu de souffrance pour l'Évangile. Chacun d'entre nous, on le fait. Nous souffrons un peu pour l'Évangile lorsque nous décidons de témoigner à nos collègues de travail, sachant que ça va peut-être nous attirer de la médisance, du rejet, n'importe quoi, du mépris. Nous souffrons un peu pour l'Évangile lorsque nous renonçons au péché, parce qu'avouons-le, on est encore pécheurs. Et il y a des passions en nous qui trouvent le péché parfois tellement agréable. Mais nous souffrons pour l'Évangile lorsque nous renonçons au péché. Nous souffrons un peu pour l'Évangile, nous suivons notre vocation. Lorsque nous donnons pour le royaume, qu'on fait un sacrifice, on donne une partie de ce que le Seigneur nous a donné, c'est avec une vision qu'on le fait. C'est pour l'avancement du royaume. Mon char est dû. Ce serait le temps que je le change. J'ai d'autres priorités dans ma vie parce que j'ai eu un autre appel que celui-là. Je ne vis pas comme le reste des gens au Québec. Je ne vis pas comme le reste des Nord-Américains. J'ai un autre appel à ce moment-ci dans ma vie. Nous le faisons lorsque nous sacrifions des heures pour servir dans l'Église. Nous le faisons lorsque nous sacrifions une soirée pour inviter des amis à un concert de J-Rock Gospel Choir. Nous le faisons lorsque nous nous investissons dans toutes sortes de ministères. Lorsqu'on voit des gens qui arrivent à la retraite et qui n'envisagent pas la retraite comme le reste des Nord-Américains. Est-ce que vous voyez ce que j'essaie de vous montrer, ce que Normand et Lise font? Nous le faisons tous et nous sommes tous appelés à le faire de différentes manières selon notre appel. J'ai passé je ne sais pas combien d'heures à jaser avec Louise et Yvon dans la dernière année parce que là, la retraite arrivait puis là, ils disaient « OK, comment servir le Seigneur? » On est en santé, puis on a du temps à donner. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a tellement de gens déjà à la retraite qui sont en train de servir le Seigneur comme ils l'ont jamais fait avant. Mais c'est parce que notre vocation est autre que celle du reste des Québécois qui se préparent pour la retraite. On a un autre appel. Notre retraite est au ciel, on le voit autrement. C'est inévitable. Et certains d'entre nous, nous souffrons un peu pour l'Évangile, car notre appel, c'est de quitter pour aller annoncer l'Évangile ailleurs. Et c'est le cas, généralement, des ouvriers qui vont éventuellement aller servir. Je pense encore une fois à Alex et Cynthia, en train d'étudier en théologie. Il a quitté un travail comme ingénieur, Alexandre, parce que Dieu avait placé sur son cœur de se préparer pour le ministère. Ce n'est pas un petit sacrifice. Mais si vous allez lui demander, si c'est un grand sacrifice à côté de ce que Christ a fait pour lui avec larmes, il va vous dire que c'est rien et que ce n'est pas un grand sacrifice. C'est un tout petit sacrifice. Parce que Christ l'a racheté, parce que Christ l'a sauvé. C'est notre vocation. On est appelé à souffrir un peu pour l'avancement du royaume. Ailleurs, Paul dit dans Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Et c'est la conclusion qui est la meilleure. « Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est très raisonnable de quitter ton emploi pour aller servir le Seigneur si c'est l'appel du Seigneur sur ta vie. C'est très raisonnable de sacrifier du temps, de sacrifier de l'argent pour l'avancement du royaume. C'est tellement raisonnable parce qu'on se prépare pour l'éternité et ces choses-là seront des très perspectives de l'éternité. C'est très raisonnable. Maintenant, un dernier encouragement que Paul donne ici à Timothée, et ça, je veux l'adresser à toute l'Église. Je l'ai pris pour moi premièrement. Mais je pense que Dieu a un message pour vous, pour toute l'Assemblée. Les versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'encourage, je t'exhorte. Je t'encourage à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Frères et sœurs, dans les dernières semaines, le conseil et moi, Normand lui-même, s'exclamait auprès du conseil. On a été grandement encouragés parce qu'on a approché différentes personnes dans l'Église en leur parlant un peu de ce qui s'en venait probablement, en leur parlant de ce que ça impliquait. Et nous avons vu le Seigneur disposer plein de cœurs. C'est vraiment touchant, vraiment édifiant. Certaines personnes même sont venues vers nous ne sachant pas du tout ce qui s'en venait. Et là, tu vois la main du Seigneur. La personne vient te voir puis elle te dit, « Sais-tu, j'aimerais ça en faire un petit peu plus. Est-ce que tu vois où est-ce que je devrais servir? J'ai ça sur mon cœur. » Il y a même une sœur qui m'a, elle va se reconnaître, mais je l'avais approchée il y a quelques semaines. Et puis, je l'avais approchée pour un ministère, tout ça. Puis sur le coup, bon, elle regardait son horaire, puis elle dit, écoute, ça m'intéresse, mais je vois pas que ce serait maintenant le moment. Alors peut-être dans 3, 5, 6 mois, peut-être que oui à ce moment-là, mais si tu veux, on va garder ça comme ça pour l'instant. Pas au courant, c'est rien. Je lui ai pas parlé de rien. Quand je m'étais embarqué avec eux dans cette aventure-là, c'est un ministère qu'on est en train de remettre sur pied, moi non plus, je n'étais pas au courant de rien. Alors, ça semblait sage jusque-là. Maintenant, quand Normand a transformé mon déjeuner chez Cora, là, tout d'un coup, j'ai dit, « Oh, Seigneur, c'est parce que je ne devrais peut-être pas être là autant. Là. C'est quoi que tu faisais là, avec ça? » Et cette sœur-là, ne sachant rien, est revenue me voir le dimanche pour me dire, « Sais-tu, j'y ai bien pensé, puis si l'offre tient toujours, je vais le prendre. Ça m'intéresse. On va y aller tranquillement, mais ça m'intéresse. » Ah, OK, Seigneur, c'est bon. C'est bon, Seigneur. C'est bon de voir que ce n'est pas nous qui bâtissons l'Église, c'est Jésus-Christ qui le fait et il prépare les cœurs. Alors, je veux vous adresser cet encouragement à toute l'Église, à toute l'Assemblée. Si vous êtes passé par les eaux du baptême, Dieu vous a donné un ou des dons pour bénir son corps, pour travailler à l'avancement de l'Évangile sur la rive sud ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être à Gatineau, peut-être au Chili, mais commençons par ici. Éventuellement ailleurs. Vous savez comment est la vie. Dieu nous bénit, nous sauve, on commence à servir. Et trop souvent, Paul le dit très très bien ici, la flamme diminue. Je suis conscient de ça. Le conseil est conscient de ça. On est conscient parce que nous sommes pécheurs. Et la flamme diminue chez nous aussi par moments. Mais aujourd'hui est un temps pour cet encouragement-là de Paul. Aujourd'hui, c'est le moment de ranimer la flamme du don que Dieu a placé en vous. Peut-être que la flamme a diminué parce qu'il y a eu des épreuves dans vos vies. Parce que vous avez perdu un emploi et on sait ce que ça fait. Tout d'un coup, il y a juste ça qui se passe dans ta vie. Tu es omnubilé par ça, tu es accaparé par ça, tu deviens obsédé par cette réalité-là. C'est humain, on comprend ça. On comprend tellement, tellement. Où il y a des épreuves, des déceptions, des maladies qui viennent. Ou tout simplement, vous entrez dans la réalité du service dans l'Église. Vous êtes blessé, vous êtes offensé par quelqu'un. Et là, tu te retires et la flamme du don diminue. Aujourd'hui est un temps, je vous le dis, je m'adresse à toute la famille de l'Église de l'Espoir, pour ranimer la flamme du don que Dieu vous a donné. Et venir appuyer le conseil, venir m'appuyer tous les frères du conseil, venir bénir les Joseph en leur montrant que Christ est en train d'animer par son Esprit Saint toute l'Église à se lever et atteindre cette région pour l'Évangile. Frères et sœurs, on a un baluchon sur le dos. On est appelé à vivre différemment du reste des hommes. Ça nous demande d'être toujours prêts à partir. Faire les bagages vite, 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 puis dire, « OK, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je laisse? Qu'est-ce qui m'empêche dans ma course? Qu'est-ce qui me ralentit? » Dieu nous parle à travers un des bergers de cette église, Normand, par le fardeau qu'il a placé sur son cœur et sur celui de Lise. Entendons le message de l'Esprit. Comprenons que nous sommes en pèlerinage. Continuons la course. Pour l'instant, c'est ici. Dans les années à venir, Dieu va en appeler d'autres aussi à partir. Je peux vous l'assurer. Je prie ardemment pour ça, frères et sœurs. Mais entre-temps, soyons confiants. Le Seigneur est là. Il prend soin de nous. Il bénit. Levons-nous comme un seul homme et servons le Seigneur ici. Accompagnons les Joseph dans la prière. Soyez assurés, Normand et Lise. On est avec vous dans la prière. On demande au Seigneur de parler très fort, très clairement. Et que vous puissiez partir dans la joie, dans la paix, si c'est ça que le Seigneur veut pour vous. On va prier ensemble. Bon berger, tu nous conduis dans de verts pâturages. Tu prends soin de nous car tu connais chacun de nos besoins. C'est toi, Seigneur Jésus, souverain berger, qui pourvoit aux besoins de nos âmes, de nos corps, de nos familles et de cette Église. Et Seigneur Jésus, je veux m'appuyer sur cette promesse, sur cette parole que tu as prononcée avec une entière autorité lorsque tu as dit « Je bâtirai mon Église ». Souverain berger, c'est entre tes mains que nous sommes. Nous vivons sur cette terre comme des pèlerins. Nous attendons d'être libérés de cette vie entièrement pour entrer dans ta présence. Et ce matin, Seigneur, avec toute cette assemblée, nous nous engageons à te servir, à te suivre où tu voudras, Jésus, à suivre l'exemple de Normand et de Lise, à avoir un cœur disponible devant toi, Seigneur. Viens fortifier nos membres ce matin. Viens fortifier nos cœurs, Seigneur. Viens consoler nos cœurs aussi ce matin, Seigneur. Parce que nous aimons les frères et sœurs. Nous nous attachons les uns aux autres. Viens, Seigneur, conduire Normand et Lise dans leur projet, celui que tu places sur leur cœur, celui que nous croyons être ton projet, Seigneur, pour eux. Viens diriger l'Église de Gatineau dans les prochaines semaines, Seigneur. Viens consoler les cœurs de cette assemblée, Seigneur Jésus. Affermis nos membres encore une fois, Seigneur, pour que nous prenions d'assaut cette ville et cette région, et toute la terre, Seigneur, jusqu'à ton retour. C'est en Jésus-Christ que nous te prions.